RCF.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Une fois par mois, le mardi dans Je pense donc j'agis, on regarde dans le rétroviseur pour se pencher sur quelques sujets de l'actualité écologie du mois avec des observateurs experts pour la commenter. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec Philippe Lansac. Bonjour Philippe.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et tous.
On va aborder plusieurs sujets jusqu'à 10h.
Oui, on commencera dans un instant par évoquer la réforme des retraites, c'est le sujet du jour, et les mobilisations qu'elle suscite aujourd'hui même. Et pour nous donner du grain à moudre, Stécie Algrin a choisi de consacrer sa chronique à ce sujet. Nous nous demanderons si cette réforme a à voir avec l'écologie. Et puis nous reviendrons sur la fin des néonicotinoïdes en France, puisque suite à une décision de la Cour européenne de justice, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire la dérogation dont bénéficiaient les producteurs de betteraves. Ensuite, nous nous demanderons ce que change le retour de Lula au pouvoir au Brésil en matière d'écologie. Et pour finir, suite à la mobilisation contre le projet d'extension d'une mine à Lützerath en Allemagne, nous évoquerons les mobilisations des militants écologistes et les débats autour de l'énergie.
Et dans la seconde partie de l'émission, un autre sujet d'actualité qui concerne le label HVE, Haute Valeur Environnementale. C'est un label d'État qui est au cœur d'une polémique après que des associations l'accusent de greenwashing et de tromperie du consommateur. Elles ont saisi le Conseil d'État il y a quelques jours pour demander son interdiction. Ce sera l'occasion de se demander plus généralement comment s'y retrouver dans les différents labels prétendument écolo. On vous donnera quelques pistes à 10h.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on vous attend à l'antenne pour discuter avec nos invités, pour commenter l'actualité. Vous pouvez également nous laisser un message par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Ils sont trois à nous accompagner jusqu'à 10h, Philippe.
Absolument, Melchior. Marine Lamoureux, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première fois dans cette émission. Vous êtes chef de rubrique à La Croix Lebdo depuis un an. Auparavant, vous étiez journaliste au service société du quotidien La Croix, où vous avez été en charge pendant 5 ans de la rubrique environnement, climat et biodiversité. François Mandil est avec nous aujourd'hui aussi. Bonjour François.
Bonjour.
Vous avez été longtemps chroniqueur sur RCF à différents horaires, sur différents sujets, souvent l'écologie dans différentes émissions, y compris celle-ci, ces deux précédentes saisons. Et vous continuez évidemment à suivre de près tout ce qui concerne l'écologie dans sa double dimension à la fois environnementale et sociétale. Et j'accueille enfin Stécie Algrin. Bonjour Stécie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante et vulgarisatrice sur les enjeux écologiques, de biodiversité et climat. Vous avez fondé Penser l'après, une association à mi-chemin entre le think tank et le média en ligne. Et vous publiez aussi 2 fois par mois la newsletter La Corneille dédiée à la biodiversité.
Et Stécie, vous êtes aussi chroniqueuse dans cette émission 1 semaine sur 2. Alors on ne va pas déroger à la règle, c'est donc avec la chronique Tout est lié qu'on entre dans le premier sujet de cette émission, Stécie.
Oui, après cette chronique à cette antenne, je pense que vous devez commencer à me connaître un peu. J'aime parler de notre rapport au monde et au vivant, utiliser l'humour pour bousculer et parfois faire appel à des références d'un style pas tout à fait académique. Alors ce matin, je ne compte pas déroger à cette règle.
Alors de quoi voulez-vous nous parler ce matin ?
De la vie, ou plutôt de la mort, puisque in fine, c'est bien elle qui confère toute sa beauté à cet exploit que nous vivons chaque jour. Nos cœurs qui palpitent dans nos poitrines, des milliers d'atomes qui, sans même que l'on ait réellement conscience qu'ils existent, rendent possibles ces mots et ma pensée. Notre cher Johnny Hallyday, que j'ai déjà eu plaisir à citer à ce même micro, chantait qu'il avait oublié de vivre. Je sais pas vraiment si nous avons oublié de vivre, mais j'ai en tout cas l'impression que nous avons oublié que nous étions humains. Que derrière ces êtres de chair et de sang, ces mécanismes complexes défiant jusqu'à toutes les limites du concevable, se cache une horloge. Glissée là dans l'une des poches de notre âme, elle cliquette doucement. Tic. Tac. Nous naissons, nous grandissons, nous aimons. Tic. Tac. Nous décrochons notre premier job et achetons notre premier appart. Tic. Tac. Nous attendons les opportunités, remettons à demain les pardons. Et puis un jour, sans prévenir, un minuscule grain de sable de la même taille que ceux que l'on collectait dans nos seaux d'enfants pour en faire des châteaux se glisse entre les rouages. L'aiguille tressote, le tic-tac se mue en murmure. Il n'était pourtant pas si tard. 20h54. Nous nous sommes endormis dans le canapé avant même que la soirée ne commence. pour encore beaucoup des plus précaires de notre société. La retraite, c'est comme cette soirée que l'on aurait manquée en s'étant écroulé en rentrant du taf. La micro-sieste se serait transformée en coma. Alors la liberté, la dignité, le bonheur n'auront été que des lueurs faiblardes au bout d'un chemin qu'il n'était voué à ne jamais atteindre. Ouais, moi je comprends pas pourquoi tout le monde parle de l'âge de la retraite comme d'une variable dans une équation. Comme si vivre après 62, 64 ou 70 balais était une évidence. Comme si à force de repousser toutes les limites, à voler dans le ciel au milieu des oiseaux, à envoyer des humains sur la lune et à fouiller les entrailles de la Terre, nous en avions perdu de vue notre propre finitude. Tout comme jadis avec la nature et nos machines biberonnées au pétrole, le transhumanisme serait en mesure de balayer les limites de notre corps. Serait-ce donc cette tendance à créer des fictions pour nous prémunir de la mort qui nous aurait conduit à nous croire les maîtres et possesseurs de la nature ? Je le sais pas. Mais je nous souhaite d'ouvrir bientôt les yeux sur notre appartenance à une même ligne de vie que le reste du vivant. Apprécions les battements de nos cœurs, au même titre que ceux des ailes d'un papillon, car ils ont cela en commun, de ne pas être éternels.
Merci beaucoup Stécie Algrin, et la semaine prochaine c'est Féris Barkat que nous retrouverons pour cette chronique. Tout est lié, à réentendre sur rcf.fr. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez réagir également à cette chronique en appelant le 04 72 38 20 23. En tout cas, Philippe Lansac, on entend, ça nous donne du grain à moudre dans cette émission.
Absolument, encore merci Stécie. Peut-être une réaction de nos invités autour de ce studio, autour de ces micros. Marine Lamoureux, une réaction à cette chronique de Stécie Algrin?
Très belle, très, très poignante. Après, moi, je suis un petit peu obsédée par l'idée de se dire qu'est-ce qu'on construit ensemble, en fait. Comment est-ce que, avec cette affaire des retraites, qui renvoie à la question du système par répartition et à la générosité de nos sociétés, en fait, comment est-ce qu'on pérennise ce système? Et je trouve qu'on est beaucoup, comme souvent en France, dans des débats un petit peu stérile, c'est-à-dire que on fait appel aux valeurs, ce qui est très bien, et ensuite on s'oppose sur pour ou contre. Or, comme dans la transition écologique, moi j'aimerais bien que on me dise si jamais on fait pas l'âge à 64 ans, qui est peut-être problématique quand on écoute la jolie chronique de Stécie, comment est-ce qu'on fait pour effectivement pérenniser ce système? Et moi j'aimerais bien, moi j'ai 45 ans. J'aimerais bien avoir une retraite par répartition quand je serai en âge de la prendre, avec un niveau correct. Et ce qui me préoccupe vraiment, c'est qu'on garde ce système de solidarité. Donc parlons de tout ça, mais essayons de réfléchir ensemble et pas dans des camps retranchés sur les solutions d'avenir.
François Mandil, c'est vrai que c'est le gros sujet de l'actualité du jour, ce sujet traité par Stécie dans sa chronique ce matin. On sent un débat très tendu en France sur le sujet, un débat tranché, nous dirait presque Marine à l'instant, qu'il condamne. En quoi ce débat, en fait, peut être lu par le prisme de l'écologie, François Mandil?
Oui, c'est effectivement le gros sujet, et ce que je trouve intéressant, c'est que la chronique permet de déplacer un peu le débat. C'est-à-dire que malheureusement, je trouve qu'on est souvent dans une approche un peu comptable, très technique, sur des calculs et des projections à plus ou moins long terme, dont on sait bien qu'elles sont très sujettes à caution. Quelle sera notre espérance de vie, quels seront nos modes de vie dans 10, 15 ans, 20 ans à l'aune des changements climatiques. Mais au-delà des sujets comptables, on aborde peu la question du sens. Qu'est-ce que c'est que le travail? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que les retraités sont vraiment des paresseux et des poids morts comme on semble l'entendre, etc. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à sortir d'une approche purement comptable et technique pour aller sur des questions de sens et de collectif, de communauté?
Effectivement, Stécie Algrin, je vous renvoie à cette question. Pourquoi avoir un regard sous l'angle et avec une grille de lecture écologique sur ce sujet? On parlait à l'instant du rapport au travail. C'est vrai que dans les manifestations aussi, on a pu voir des pancartes nous indiquant, par exemple, pas de planète, pas de retraite, occupez-vous de la planète, laissez-nous nos retraites. On sentait qu'il y a une mobilisation sur le sujet. Aussi, un autre slogan, travaillez plus pour polluer plus. Voilà, quelques slogans qui sont venus s'inviter aussi dans ce débat. En quoi, en l'occurrence, effectivement, ça nous interroge d'un point de vue écologique et du tout est lié, Stécie Algrin?
Alors, je pense déjà qu'on oublie très souvent que parler d'écologie, c'est avant tout parler de nous, les êtres humains, parce qu'on fait partie du vivant, tout simplement, et que quand on parle d'écologie, quand on milite et quand on s'engage, comme on est en train de le faire aujourd'hui en débattant de ces sujets, on essaie avant tout de repenser notre place, notre hiérarchie, notre rapport au vivant. Et donc pour moi, parler de la question des retraites, ça ne peut pas passer sans parler de cette question de nos rapports entre humains aussi et notre rapport à nos corps, que je pense qu'on a tendance souvent à oublier. Et en fait, moi, ce qui m'a frappée en regardant tous ces débats, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans une position qui est quand même plus confortable que celle de mes parents, parce que j'ai eu l'opportunité de faire des études, que j'ai la possibilité de m'exprimer à des heures de grande écoute, parfois comme celle-ci. Donc c'est quand même une place qui est assez sympa dans la société. En revanche, mes parents, eux, ils n'ont pas du tout eu cette chance, puisque mes parents étaient ouvriers. Mon père a travaillé dans le BTP, il a commencé à bosser, il avait 15 ans. Ma mère a travaillé pendant une trentaine d'années dans la grande distribution. Et en fait, j'ai vu mes parents, depuis que je suis jeune, avoir des corps qui étaient bousillés, qui étaient épuisés. Et de voir qu'aujourd'hui, en fait, ils sont en train de se dire « on va devoir continuer à travailler encore ». Toujours plus, et je me dis en fait à l'échelle de la société il y a tellement d'autres histoires comme celle-ci, tellement d'autres personnes qui n'arrivent tout simplement pas à voir le bout, à se dire en fait la retraite c'est un peu apparemment le moment de la délivrance, le moment où on aura enfin travaillé assez dur pour mériter son bonheur, mériter sa paix. Et je pense que quand on est dans des positions privilégiées comme la mienne, on a tendance à oublier que pour toute une partie de la population, aujourd'hui le quotidien c'est une souffrance, parce que travailler, c'est des conditions pour beaucoup qui sont compliquées. Aller travailler la nuit, aller travailler avec des charges lourdes. Et donc, quand on pense aussi à ce rapport au travail, quand on dit le travail est une valeur, oui, c'est une valeur parce que ça nous permet aussi d'apprendre à faire société. En revanche, quand ça en devient la seule boussole qu'on ait dans notre société, c'est à nouveau questionner aussi notre rapport à la croissance, notre rapport à la création de valeur. Et créer de la valeur pour détruire des vies, je ne sais pas si c'est très intéressant au final.
Marine Lamoureux, moi ce qui me frappe dans ce qu'on se dit là depuis quelques minutes à ce micro, c'est cet écho effectivement au débat écologique, que ce soit celui de l'intergénérationnel, que ce soit celui du tout est lié avec la dimension sociale, du rapport au corps et de la pénibilité, celui de la dignité aussi de la personne humaine. Hein, quand on parlait de pénibilité à l'instant, on voit beaucoup de ponts en fait entre les débats qu'on peut avoir sur une écologie au sens large, au change intégral, au sens du tout est lié dans sa dimension environnementale et sociale, qu'avec celui des retraites à ne pas limiter à un débat comptable. Marine Lamoureux.
Oui, entièrement d'accord. Moi, ce que je trouve très intéressant dans les mobilisations des mouvements écologistes, dans les manifestations des retraites, c'est que ils nous rappellent que l'enjeu il est complètement systémique et que on doit repenser la question du travail. Et c'est vrai que c'est extrêmement triste de se dire que le travail on l'exerce et puis on attend la délivrance. Moi, je dis mais il faut repenser absolument la question de ce que c'est que travailler. Je reviens pas à la philosophie, mais on pourrait débattre très longtemps de la place du travail dans l'épanouissement de nos vies. Si on en est à considérer que le travail n'est qu'exploitation, qui est que tant pauvre, tant de corps abîmés, comme vous le disiez, Stécie, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans la société. Il y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Satish Kumar, qui a été un de ceux qui ont créé un collège de la transition écologique en Angleterre, dans le Devon, un des premiers à avoir vraiment pensé la transition écologique. Et lui, il avait un discours très, très, très provocateur sur le travail, en disant « mais en fait, on travaille beaucoup trop, on devrait penser une société qui travaillerait 3 heures, 4 heures par jour, et le reste, on aurait tellement de choses à faire. » Et le « tellement de choses à faire », en fait, peut-être qu'on peut considérer que c'est du travail, parce que ça peut être garder des enfants, ça peut être aider des jeunes. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ça de manière rémunérée. On pourrait complètement repenser, en fait, notre rapport au travail. On ne voit pas très loin. Mais une fois que j'ai dit ça, et je vais revenir un petit peu à mon premier argument, c'est que c'est trop facile de dire « on devrait, il n'y a qu'à, faut qu'on ». En réalité, ça demande une profonde transformation de nos sociétés, à laquelle je ne suis pas sûre que tout le monde soit prêt. Donc, encore une fois, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas simplistes. Moi, je suis absolument convaincue que cette question du travail, elle doit être pensée en profondeur. Je pense que on a il y a Jean-Baptiste de Foucault aussi, l'ancien commissaire au plan, qui avait énormément travaillé sur cette question du temps réparti. Est-ce qu'on passe pas à mon âge, j'ai dit mon âge tout à l'heure, trop de temps à travailler, à s'occuper de ses enfants et à tout cumuler dans un stress? Alors qu'en fait, on pourrait répartir les temps de travail, les temps de loisirs, les temps pour s'occuper de ses proches tout au long de la vie. Et ça pourrait s'organiser collectivement par des politiques publiques. Mais encore une fois, attention au yaka, faucon, des très belles valeurs. Aujourd'hui, ce qui nous incombe à notre génération, à toutes les deux, Stacy, et à toutes les autres, c'est de encore une fois de construire cette nouvelle société. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Et ça a aussi des coûts et ça a des répercussions. J'espère qu'on dira un mot de la croissance, hein, parce que ce débat sur la retraite, ça vient aussi percuter tous les enjeux de travail, mais aussi de productivisme et de croissance.
François Mandil, je rebondis sur ce que dit Marine Lamoureux à l'instant sur la question des générations. Au cœur du débat, il y a celui du rôle des seniors dans notre société, des plus âgés, des aînés, et de leur utilité dans la société. Certes, il y a ce projet de rallonger la durée du travail, mais aussi de la question des plus âgés, de leur rôle, et notamment de la question du bénévolat aussi autour de cela. Je sais que vous avez été engagé très très longtemps, et vous l'êtes toujours dans le milieu associatif. François Mandil, comment regardez-vous cette question ?
Oui, merci. Alors c'est très bien, parce que effectivement c'était ce que je voulais aborder. Tout ce qui vient d'être dit résonne beaucoup. Au-delà de la question travail, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à la notion d'activité. Finalement, aujourd'hui, dans une approche très, on va dire, capitaliste, pour utiliser des gros mots, mais je trouve que c'est le cas en l'occurrence, n'est valorisée que la dimension travail et non pas la dimension activité. Et par exemple, aller dire aujourd'hui aux dizaines de milliers de retraités qui font fonctionner le Secours catholique, qu'ils ne servent plus à rien parce qu'ils sont retraités et donc qu'ils coûtent cher, c'est quand même un peu difficile. Et donc, la question au-delà du travail et de l'activité peut être la question de l'utilité sociale. Marine Lamoureux évoquait le fait de garder des enfants, mais des bénévoles, qu'ils soient actifs ou retraités, et qui s'engagent, sont largement aussi utiles, même s'ils ne produisent pas de croissance. Parce que effectivement, on est bien sur cette question-là, et c'est pour ça que j'aime bien faire cette distinction entre travail et activité. Je ne pense pas qu'il faille viser, par exemple, le plein emploi, mais peut-être la pleine activité. Et que effectivement, ce qui est intéressant, la question de l'écologie. Pour y revenir, la question de l'écologie, elle est bien dans notre rapport au corps, dans notre harmonie avec notre environnement naturel et humain. Et j'aime bien rappeler, je le redis souvent, et j'aime bien le redire sur RCF en particulier, changement climatique ou pas, il faut être écolo. Saint François d'Assise ne connaissait pas les changements climatiques. Il était profondément écolo parce qu'il était aussi dans un rapport complètement différent à la nature. Et en particulier, si on regarde la vie de Saint François d'Assise au regard du travail et de l'utilité sociale et de ce qu'il lègue à la société, c'est assez intéressant. Je termine juste en parlant de cette question finalement de marchandisation. En fait, toute la question est de où est-ce que quand est-ce qu'on sort d'une société où tout a une valeur marchande, et donc on est calculé en fonction de la valeur marchande qu'on apporte à la société, et donc il faut apporter toujours plus de valeur marchande, donc toujours plus de croissance, et donc il faudrait théoriquement étendre durée du travail. Et on est donc bien là au cœur du sujet.
En tout cas,
effectivement, comme disait Marine Lamoureux, ça va prendre très longtemps parce que c'est des gros gros changements de société.
Cette réforme des retraites, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je vous invite à aller retrouver notre dossier sur notre site rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Philippe Lansac.
Avec vos réactions 04 72 38 20 23, on continue de décrypter l'actualité de l'écologie du mois de janvier, Philippe, avec notre deuxième sujet. Là aussi, on en a énormément entendu parler.
Oui, il s'agit de la fin des néonicotinoïdes en France, puisque suite à une décision de la Cour européenne de justice le 19 janvier dernier, le gouvernement français a décidé de ne pas reconduire la dérogation dont bénéficiaient les producteurs de betteraves. Marine Lamoureux, peut-être pourriez-vous nous rappeler un peu l'histoire de ce parcours juridique chaotique des néonicotinoïdes, peut-être en nous rappelant de quoi il s'agit d'abord. Les néonicotinoïdes, c'est quoi ?
C'est dur à dire déjà.
Oui, un petit mot barbare qui nous donne toujours du fil à retordre. En réalité, ça recouvre un certain nombre de familles de pesticides qui sont évidemment très efficace quand on est, on a besoin de supprimer des parasites dans des cultures. Là, on l'a vu notamment sur la question des cultures betteravières. On a donc des pesticides qui sont particuliers parce qu'ils s'attaquent au système nerveux central des insectes, en particulier des pollinisateurs et des abeilles. C'est pour ça qu'on dit souvent les tueurs d'abeilles, mais en réalité, ce sont des substances qui atteignent bien au-delà les écosystèmes et la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement préoccupants. Ils sont tellement préoccupants que dans toute la famille des produits phytosanitaires, on sait très bien que nos pays ont énormément de mal à se sortir d'une agriculture conventionnelle qui s'appuie sur ces produits. Bah ceux-là, ils sont tellement décriés par les scientifiques et ils ont tellement de conséquences que dès 2016, en fait, avec la loi biodiversité, la France a dit il faut interdire 5 de ces familles de ces produits. Le législateur avait d'ailleurs laissé du temps aux producteurs pour commencer à travailler sur la question de la transition agroécologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les producteurs n'ont pas travaillé sur la transition agroécologique et je crois que c'est ça, enfin je caricature un petit peu évidemment, mais pas suffisamment en tout cas, et je crois que c'est ça aussi qui doit être présent dans notre conversation. Finalement, on se retrouve en 2020 avec un puceron qui provoque la jaunisse de la betterave. Évidemment, économiquement, c'est très très lourd pour les producteurs qui ne se sont pas préparés.
Surtout que la France est le deuxième producteur de sucre de betterave au monde, je crois, après la Russie.
Premier producteur européen, en tout cas, en Europe, de sucre à partir des betteraves. Donc évidemment, une filière importante, j'avais renoté les chiffres, mais je sais, 24 000 planteurs, 35 millions de tonnes de alors je ne sais plus si c'est betterave ou sucre, pardon, mais en tout cas, c'est une grosse filière économique. Donc je reprends le fil de ce que je disais. Donc on arrive avec une jaunisse, une impasse finalement pour les producteurs si on n'est pas préparé. Encore une fois, je crois que la question de l'amont et de la préparation est fondamentale. Et qu'est-ce que fait le législateur? Une dérogation qui a franchement désespéré les scientifiques, les spécialistes des écosystèmes, des sols, de l'eau, en se disant mais c'est pas possible, on vient d'obtenir une interdiction. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Dérogation. Donc dérogation en 2021, dérogation en 2022. Et là, on peut quand même saluer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, le gouvernement français a quand même été obligé cette fois-ci de dire bon, on arrête les dérogations. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment que les syndicats agricoles ont réagi, enfin pas tous.
Oui, beaucoup de colère quand même en ce moment des agriculteurs dans le nord de la France.
Bien sûr, parce que à partir du moment où on met les gens face à une situation brutale dans laquelle ils n'ont pas d'alternative, n'importe qui, vous et moi, si on avait des semis dans un mois, on serait dans la même situation. Quel est le problème? Le problème, c'est notre société qui n'arrive pas à anticiper et à peut-être fournir les aides nécessaires aux agriculteurs pour faire leur conversion. En réalité, on n'aurait jamais dû avoir besoin de ces dérogations. Cette conversion aurait dû être menée avec des alternatives. Il en existe. À la Croix, on a fait beaucoup de papiers pour montrer qu'il existe des alternatives aux néonicotinoïdes, parce qu'on ne peut pas continuer à déverser ces substances. Vous imaginez bien que si elles s'attaquent aux vivants, elles s'attaquent pas qu'à la plante et elles s'attaquent pas qu'à l'abeille. Elles s'attaquent également à nos organismes. Donc là encore, moi je suis pas scientifique, je dis pas que tel néonicotinoïde va provoquer telle conséquence sur le corps humain. Je dis simplement que on est maintenant dans une société assez mûre pour comprendre qu'une agriculture qui fonctionne à grand renfort de produits phytosanitaires, c'est plus possible quoi. Il faut absolument engager une transition agroécologique.
Cette question de l'amont, Stécie Algrin, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation un peu caricaturale, comme on l'a souvent, où on a la sensation qu'il y a des militants écologiques et donc des scientifiques qui viennent mettre des bâtons dans les rouages d'agriculteurs qui se retrouvent en difficulté et qui hurlent au loup. On l'évoquait à l'instant avec Marine Lamoureux et donc quelque chose d'assez violent en fait dans l'échange face à des enjeux de transition. Comment vous observez, Cécile Algrin, vous qui êtes aussi engagée, cette difficulté à rentrer dans un rapport qui, certes, peut être conflictuel, on peut pas être d'accord sur tout et chercher du consensus sur tout, mais qui est quand même assez violent sur beaucoup de sujets?
Alors, je pense qu'à partir du moment où comme Marine le mentionnait, on est en train de parler de transformations qui sont profondes et qui remettent en question quand même des systèmes qui ont été mis en place avant même que je ne sois née, évidemment que ça va provoquer des conflits. Évidemment que, surtout aujourd'hui, on voit que le mouvement écolo est quand même largement porté par une jeunesse urbaine ou en tout cas qui rentre dans des stéréotypes que certains de nos politiques aussi essaient de pousser dans les médias. Évidemment que quand on est agriculteur et qu'on est loin de ces réalités-là, qu'on a l'impression que tout se décide dans les villes, que ces personnes-là sont déconnectées de la réalité, ce qui peut être le cas. D'ailleurs, je pense qu'il faut le mentionner. Évidemment qu'à un moment donné, c'est un peu un clash des civilisations, un clash des visions du monde. Après, je pense que il faut aussi savoir rentrer dans du dialogue. Il y a beaucoup de jeunes militants également qui ont envie de faire ce pas-là, qui ont envie aussi de remettre les mains dans la terre et de faire comprendre que, dans tous les cas, aujourd'hui, quand on parle de transition agroécologique, ça veut aussi dire qu'on va avoir besoin de plus de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on se retrouve dans le même cas que quand on parle de boomers et la génération climat. C'est en fait, on a deux maillons de la chaîne qui sont nécessaires pour faire cette transition. Comment est-ce qu'on fait pour, en effet, remettre un peu de nuances, un peu d'éclaircies dans tout ça? Je pense que ça va passer évidemment par une jeunesse qui doit retourner aussi à l'échelon local, qui doit comprendre que militer à Paris, c'est super et hyper important parce que les décisions sont prises ici, les décisions politiques. En revanche, beaucoup de solutions aujourd'hui sont mises en place dans nos territoires. Ces personnes qui, au quotidien, ont des conditions de travail, je pense qu'on y revient toujours à cette question du travail, mais qui ont des conditions de travail qui sont épuisantes, qui ne sont pas aidées aussi d'un point de vue économique, il va falloir qu'on aille les accompagner et qu'on fasse front avec eux. Parce que typiquement, quand ils se retrouvent face à une industrie agro-industrielle qui leur marche dessus, qui leur roule dessus au quotidien, il faut qu'on sache être solidaire avec eux et qu'on se rende compte que finalement on est les victimes d'un même système, d'un système qui est capitaliste, vous l'avez mentionné, d'un système qui est destructeur pour le vivant et qui est destructeur également pour les humains.
Marine Lamoureux.
Oui, je voulais ajouter que en fait, il se passe plein de choses. Moi, j'ai assisté à deux journées de débats au Conseil régional Centre-Val de Loire avec des responsable de filières agricoles dans l'élevage, dans les grandes cultures céréalières, sous l'impulsion du conseil régional qui, lui, a envie d'éco-conditionner ses aides. Et donc, tout ce public s'est réuni et c'est extrêmement intéressant parce que quand on commence à parler des contraintes des uns et des autres, mais quand on commence aussi à placer la gravité de la situation au niveau où elle est, eh ben il se passe des choses. Donc voilà, la transition, elle est quand même en cours, heureusement, dans nos territoires.
Et il s'est passé des choses, beaucoup de choses, en ce mois de janvier 2023 sur les CG écologiques. On a parlé à l'instant de la fin des néonicotinoïdes, mais il y a eu aussi quelque chose d'intéressant qui nous a permis de réaliser que quand les gouvernements effectivement prennent en main sérieusement des sujets, il se passe des choses. C'était dans le dernier rapport du PNU, le programme des Nations Unies pour l'environnement, publié en ce mois de janvier, un rapport plutôt intéressant sur la question du trou dans la couche d'ozone. François Mandil.
Oui, non, parce que j'avais deux trois choses à rajouter sur les néonicotinoïdes, mais ce qu'on voit, c'est que effectivement, on est capable d'arriver à des solutions quand on se coordonne au niveau international, et que effectivement, on arrive en anticipant sur l'avenir à trouver des solutions et à s'en sortir. Aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone est en train de se résorber progressivement. Et notamment parce que on a trouvé aussi une alliance entre industriels, utilisateurs, consommateurs, et de la même façon sur le sujet des néonicotinoïdes, c'est aussi important de réussir à avoir ce lien avec les paysans, les consommateurs, les politiques. Quand même, juste un mot sur les néonicotinoïdes.
Pardon, ouais.
La jeunesse, elle est aussi rurale. Hein. Moi, ce qui m'a formé sur le sujet, c'est le MRJC, qui est assez impliqué sur le sujet. Et ce qui est important, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que sur la question de l'éco-conditionnalité des aides ou des choses comme ça, où on dit parfois les écologistes ou l'éco-conditionnalité met des bâtons dans les roues des paysans, je crois qu'il faut remettre l'église au centre du village. C'est pas les écologistes qui mettent des bâtons dans les roues des paysans. Il faut aussi ne pas oublier que la France, l'État, ne met pas les moyens pour aider à la transition. Parce que effectivement, et ça a été dit, quand on se contente de demander à des gens d'arrêter une pratique qui leur a été imposée pendant des années, si on n'aide pas à la transition, ça fonctionne pas. Et
dans la stratégie nationale française, hein, de la PAC qui a été votée l'été dernier, il n'y a rien sur la transition écologique de l'agriculture. Donc on peut toujours dire que c'est les écologistes qui mettent des bâtons dans les roues des paysans. En fait, c'est l'État qui ne finance pas, alors qu'il en a les moyens, la transition écologique de l'agriculture.
Marine Lamoureux, je reviens sur cette question de la couche d'ozone, pardon, sur effectivement cette capacité à mettre en mouvement des politiques. On l'a vu, une alerte dès les années 70 sur le sujet, et puis dès le début des années 80, une mobilisation au fond assez rapide des gouvernants. Et que nous dit le rapport du PNUD en la matière? En quoi ça nous donne espoir sur ce que peut provoquer une mobilisation militante auprès des politiques, la mise en mouvement des politiques et une avancée sur un enjeu climatique comme celui du trou dans la couche d'ozone, Marine Lamoureux?
Ça dit plusieurs choses. Après, je ne veux pas doucher les espoirs parce que, en fait, il y a des actions plus ou moins difficiles à mener, en fait. Et refermer le trou de la couche d'ozone, je suis pas une spécialiste, mais je pense qu'il y a des actions, je vais pas dire simples, mais assez directes, qui permettent d'avoir un effet. Quand on parle du réchauffement climatique, ça, et on l'a dit déjà depuis le début de l'émission, puisque c'est ça notre gros enjeu aujourd'hui, ça implique une transformation systémique de toute notre économie, de tous nos secteurs, de notre rapport au monde, et c'est pas, à mon avis, tout à fait du même ordre. Après, effectivement, la mobilisation, le fait qu'il y ait dans ce rapport de force, j'allais dire les hommes et les femmes de bonne volonté qui sont convaincus que cette transition, elle doit être menée, s'il y avait une capacité à s'allier et à peser dans le rapport de force, sans naïveté, parce que c'est un rapport de force, et c'est un rapport de force extrêmement lourd et difficile à mener. Évidemment que ça porte ses fruits. On n'a pas parlé du moratoire sur... je vais sur un autre sujet, mais
je voulais qu'on
sur
en parle justement.
Les fonds marins. comme vous voulez, mais en tout cas, je trouve, on n'y est pas encore au moratoire de tous les pays, évidemment, mais c'est extrêmement intéressant de voir que petit à petit, si les pays adoptent ce moratoire, donc je rappelle, l'Assemblée nationale en France a voté cette résolution pour interdire l'exploitation des minerais dans les grands fonds marins.
C'était encore en ce mois de janvier, là, le 17 janvier, donc c'est tout récent.
Voilà, on est pile poil dans l'actualité qui nous occupe. C'est extrêmement intéressant parce que petit à petit, ça peut faire boule de neige. Après, encore une fois, je le répète sans naïveté, là, il n'y a qu'une douzaine de pays qui se sont aujourd'hui prononcés sur l'importance de cette interdiction. Mais voilà, la mobilisation, il faut jamais désespérer. Il faut petit à petit, étape par étape, tous... se mobiliser, et vraiment ça nous incombe. Moi je dis beaucoup ça autour de moi. Parfois les gens sont un peu, se sentent démunis, se disent de toute façon je suis tétanisée par l'ampleur du défi.
Oui, c'est l'éco-anxiété aussi qui est très présente dans la société.
L'éco-anxiété, le déni, enfin bon, on pourrait faire toute une émission là-dessus. En fait, chaque action, chaque geste, chaque mise en mouvement va compter. Chaque tonne de CO2 qui n'est pas émise dans l'atmosphère, ça compte en fait. Chaque écosystème préservé, ça compte. Donc c'est extrêmement mobilisateur en fait.
Je note l'idée, Marine Lamoureux, d'un sujet sur l'éco-anxiété, parce qu'on n'en a jamais vraiment fait dans Je pense, donc j'agis. Donc je note bien ça, j'en parlerai avec Anne-Guerre Léo. Allez, on va faire une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant pour attaquer notre troisième sujet. On vous emmènera au Brésil, à tout de suite.
Écoute dans la nuit, Louis Auxil Maillard.
Quel est pour vous le verset le plus important du Nouveau Testament? Citez-en nous un et un seul ce soir et dites-nous pourquoi celui-là. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h.
Le Collège des Bernardins et RCF, engagés sur les questions des enjeux du numérique, organisent ensemble une demi-journée de réflexion et d'échange pour les ados et les adultes sur l'impact du numérique dans nos vies. Enseignants, psychanalystes, théologiens, philosophes, experts et journalistes vous donnent rendez-vous mercredi 1er février pour des ateliers, des forums, des débats ouverts à tous. Vie numérique, anti, accro, trouvez sa voie, mercredi 1er février, de 16h à 21h30, au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. Renseignements et inscriptions sur collegedesbernardins.fr.
En ce moment, la boutique RCF vous propose de profiter d'une remise exceptionnelle de 20% sur toute la collection Les Essentiels. Spiritualité, psychologie, prière, famille, philosophie, tous les coffrets à moins 20%. Profitez-en! Rendez-vous dès maintenant sur boutique.rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Philippe Lansac.
Et toujours avec nos trois invités jusqu'à 10h, Marine Lamoureux, François Mandil et Stécie Algrin, toujours avec vos réactions également au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Philippe, on continue avec le retour de Lula au pouvoir au Brésil.
Et oui, c'était le 1er janvier dernier sur le Planalto, cette grande esplanade des trois pouvoirs à Brasilia qui réunit à la fois le Parlement, la Cour de justice et le Palais présidentiel. Sur ce Planalto que Luiz Inácio da Silva, dit Lula, a été investi président de la République du Brésil pour la troisième fois suite à sa victoire contre Jair Bolsonaro. Une investiture symboliquement forte après des élections très serrées et très tendues, car Lula, ce jour-là, s'est affiché aux côtés de différents Brésiliens anonymes, un jeune garçon de 10 ans, un métallo, un ouvrier handicapé, un moins anonyme qui est le grand chef amérindien Raoni, chef des Kayapo, symbole de la lutte pour la défense de la forêt amazonienne. Alors, lors de son discours d'investiture, Lula a martelé l'objectif zéro déforestation après 4 années dramatiques en la matière sous Bolsonaro. Peut-on y croire dans un contexte toujours hyper tendu au Brésil, notamment suite à l'invasion du Parlement brésilien le 8 janvier dernier? Peut-on croire à cette politique zéro déforestation au Brésil, Marine Lamoureux?
Bah oui, il faut absolument. Non, en fait, il faut bien se rappeler que faut revenir un peu à l'histoire. Hein. Lula, c'était évidemment pas un grand écologiste quand il a été élu au début du 21e siècle. Et pourtant, il y a eu déjà des efforts de fait au niveau de... Alors, je parle pas des grands barrages qui ont été extrêmement polémiques dans le bassin amazonien, mais il y a eu quand même des efforts qui avaient été faits et un recul de la déforestation donc il y avait des améliorations. Avec Dilma Rousseff, déjà plus de mesures en faveur de l'agrobusiness. Donc à partir de 2012, on repart sur une situation très néfaste. Et évidemment, sous Bolsonaro, là, c'est carrément catastrophique. Donc le fait que non seulement Lula revienne au pouvoir, mais revienne au pouvoir avec un vrai engagement écologiste. Hein. Je rappelle que sa ministre, Marina Silva, ministre de l'Environnement, avait claqué la porte en 2008, mais elle ne lui en veut pas. Elle le réinfluence sur le fondement de son programme et elle est à nouveau à ses côtés. Donc très très bonne nouvelle.
Oui, alors qu'elle était partie, effectivement.
Oui, elle était partie. Ouais. Voilà, donc quand je dis à la fois il y avait eu du mieux du point de vue de la déforestation, mais que Lula n'était pas un grand écologiste, voilà, on était dans toutes ces ambivalences, en fait. Là, on peut espérer, pour répondre à votre question, qu'on rentre quand même dans une nouvelle ère. Encore une fois, je me répète, sans naïveté, le poids des lobbies d'agrobusiness ne doit absolument pas être sous-estimé. Et j'ajoute que nous devons tous nous questionner sur la question de la déforestation en Amazonie. Pourquoi ? Parce qu'on déforeste pour faire du soja. Et le soja, il nourrit notre bétail pour pouvoir avoir un steak dans notre assiette. Donc n'oublions pas que nous sommes aussi responsables par nos importations. Je rappelle qu'il y a une stratégie nationale de la déforestation importée qui est travaillée par le gouvernement. Nous sommes aussi impliqués dans cette affaire. Donc bonne nouvelle parce que Lula prend visiblement un tournant vert. Bonne nouvelle aussi parce que nous sommes de plus en plus sensibilisés à cette question. Mais là encore, attention, rien n'est simple.
Oui, François Mandil, effectivement, on connaît ce lien fort entre Lula et les grands patrons d'agrobusiness dont parlait un instant Marine Lamoureux, notamment le soja, puisque le Brésil est le premier exportateur mondial de soja, mais aussi l'élevage extensif, hein, dont on sait que c'est la deuxième grande cause de déforestation de la forêt amazonienne. Comment, avec ce nouveau mandat et au regard aussi de ce qu'essaient de dire certaines associations écologiques qui avaient pu un peu baisser les bras, on évoquait l'ancienne ministre de l'écologie qui avait abandonné à un moment donné, en quoi peut-on ce coup-ci y croire vraiment, François Mandil?
Ben, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que vient de dire Marine Lamoureux. C'est il y a des signes qui montrent que effectivement il y a une évolution de Lula. Cette investiture que vous avez évoquée, moi dans ses gestes, elle m'a aussi rappelé un certain nombre de symboliques du pape François. Et je crois fondamentalement qu'il y a une confiance. Enfin, il y a quelque chose quand même, notamment en Amérique latine. Et c'est vrai que on a peut-être une culture en Europe, en Amérique du Nord. Pendant longtemps, on a considéré que l'Afrique, l'Amérique du Sud, c'était ces pays sous-développés dont on pouvait pas attendre grand-chose si ce n'est nous leur apprendre. Et en fait, je crois qu'on perd de vue l'importance de la société civile, notamment en Afrique, en Amérique latine. L'un des plus grands mouvements sociaux, c'est le mouvement des paysans sans terre au Brésil, qui fait un travail absolument incroyable et qui a beaucoup porté, qui a fait évoluer Lula. Et donc ces mouvements, cette société civile, fait partie aussi des éléments qui donnent envie de continuer à y croire.
Rôle de la société civile, on se rappelle bien sûr de la naissance du Forum social mondial à Porto Alegre au Brésil, puis qui s'était décentralisé dans plein d'autres pays, je pense à l'Afrique de l'Ouest, je pense au Forum social mondial de Bamako il y a quelques années encore. Stécie Algrin, cette question de la société civile et du lien entre les sociétés civiles européennes par exemple et les sociétés civiles brésiliennes, comment l'aborder et comment aussi aborder ce sujet de l'Amazonie où parfois les Brésiliens se sentent aussi un peu dépossédé, en mode voilà, qu'êtes-vous à nous donner des leçons, c'est notre pays. Enfin, on sent quelque chose d'assez complexe en ce sens, Stécie Algrin.
Tout à fait, je pense que c'est un sujet très important puisqu'on voit à peu près la même chose sur le continent africain en ce moment. Je milite beaucoup sur le projet ICOP, qui est donc le projet de pipeline de Total, le plus long pipeline chauffé au monde entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et en fait, on se retrouve dans la même configuration que le Brésil avec l'Amazonie, où en fait ces pays ont des ressources qu'ils pourraient tout à fait exploiter pour permettre le développement économique de leur pays, ce que nous on a pu faire plutôt qu'eux pour avoir le mode de vie qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, on se retrouve avec cette préoccupation pour la question environnementale, pour la question de la biodiversité, et on leur dit non, n'exploitez pas ces ressources. Ne vous développez pas sur le même modèle que nous avons pu emprunter. Donc à ce moment-là, en fait, si on veut collectivement, en tant que monde, en tant que société mondiale de petits humains, ne pas foncer droit dans le mur, c'est comment est-ce qu'on va permettre à ces pays-là d'avoir des niveaux de vie qui soient décents, puisqu'il y a encore des personnes qui sont dans des niveaux de pauvreté qui sont absolument indécents aujourd'hui, sans emprunter ce même chemin de développement. Ça passe par la solidarité internationale, ça passe par des accords internationaux typiquement qui sont négociés au cours des COP sur le climat, sur la biodiversité, qui prennent en compte ces questions d'inégalité qu'il y a pu avoir entre les pays du Nord et les pays du Sud, parce qu'il faut rappeler que le changement climatique, il a été majoritairement causé par nos pays, par les pays occidentaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour les accompagner sur un développement qui soit fait sur d'autres principes, sur d'autres valeurs plus environnementales? Et ce qu'il faut peut-être pointer du doigt ici sur le cas brésilien, c'est qu'il y a un fonds de préservation de la forêt amazonienne qui existait depuis un petit moment, qui avait été gelé en 2019, puisque Jair Bolsonaro s'était un petit peu disputé avec les pays qui abreuvaient ce fonds, notamment la Norvège et l'Allemagne. Il est en train d'être réactivé. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que cette solidarité entre les pays, elle peut aussi tenir le choc après certains gouvernements qui peuvent avoir des positions qui sont tout à fait détestables. Donc ça veut dire que nous en tant que pays occidentaux, on a compris que ces pays-là étaient hyper importants d'un point de vue environnemental et qu'ils allaient avoir besoin de notre aide.
Marine Lamoureux, effectivement, comment réagir, accompagner cette perception qu'on peut avoir au Brésil, en Afrique ou ailleurs d'une forme de colonialisme écologique dans l'autre sens que nous évoque à l'instant Stécie Algrin, comment le dépasser?
En fait, moi, je voulais parler d'un exemple parce que je suis tout à fait d'accord avec Stécie sur l'idée que on peut pas imaginer avoir une action très efficace sur la préservation des écosystèmes comme le bassin amazonien sans faire en sorte que les populations locales aient de quoi vivre, en fait. Et ce serait très naïf. Donc, il y a bien sûr les grands lobbies, on en a parlé, mais il y a aussi la façon dont les populations locales survivent, ont des moyens de subsistance. Et je voulais faire référence à un autre pays parce que j'en reviens, j'étais dans l'Assam, qui est vraiment un état à l'extrême nord-est de l'Inde, où il y a un grand parc national. Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes sujets, mais quand même, parce que c'est quand même la préservation des écosystèmes, d'une faune extraordinaire. Et ils ont mené un travail de fourmi avec les populations locales pour leur permettre d'avoir des revenus soit liés au tourisme, si c'est un tourisme respectueux de l'environnement, soit liés au tissage, soit liés à l'élevage. Donc ça, ce sont des fonds, c'est une formation qui est donnée à ces populations pour qu'elles aient des moyens de subsistance et qu'elles n'aillent plus braconner, qu'elles n'aillent plus
couper le bois, et c'est absolument fondamental. Et ça, c'est dans... Alors, que... Nous, on n'a pas grand-chose à y faire, finalement, et on n'a pas de leçons à donner. Mais par contre, on peut quand même financer au niveau du développement. Et là, en l'occurrence, c'était un programme financé par une filiale de l'Agence française de développement qui s'appelle Proparco. Donc, très bien. Ce sont des prêts ou des prises de participation dans des projets. Donc là, c'est très concret, très sonnant et trébuchant. Je rappelle quand même qu'au COP, hein, au COP climat pour reboucler, on est toujours sur la question des financements du nord vers le sud. Donc ça, c'est pas du colonialisme, c'est plutôt assumer notre responsabilité historique en versant l'argent ou en prenant effectivement des engagements sur les prêts pour que ces pays puissent engager encore une fois leur transition.
Allez, 9h48 sur RCF, on passe à notre dernier sujet.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Philippe Lansac.
Eh oui, pour finir, on va parler de mobilisation de Lützerath. Qu'est-ce que c'est, Philippe ?
Lützerath, c'est un petit hameau de Rhénanie du Nord en Allemagne. Hameau qui fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une grande mobilisation contre l'extension d'une immense mine de charbon à ciel ouvert. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes de milliers de manifestants venus de toute l'Europe au bord de cet immense trou. Une mobilisation qui a fait du bruit aussi, car Greta Thunberg, la jeune militante suédoise, était présente le 14 janvier dernier. Et s'est fait arrêter par la police allemande. Ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Autre mobilisation forte, 4 jours plus tard, de Greta Thunberg, de nouveau au forum économique de Davos. Un forum qui, selon elle, réunit ceux qui détruisent le plus la planète. Greta Thunberg n'était pas seule pour sa 4e participation à Davos. Elle était entourée de l'équatorienne Elena Galinga, l'ougandaise Vanessa Nakate et l'allemande Luisa Neubauer. Que nous disent ces mobilisations ? Sont-elles importantes au fond, au-delà du buzz qu'elles suscitent, Stécie Algrin ?
Évidemment qu'elles sont essentielles, puisque quand on parle de Lützerath, c'est pas... Il y a évidemment la question environnementale, parce que concrètement, on est en train de parler de lignite de charbon qui est encore plus polluant que le charbon. On se demande si c'était possible. Bah oui, c'est possible. Mais il y a aussi la question des droits humains. C'est toujours vraiment deux sujets qui s'enlacent, où on voit qu'il y a des personnes qui sont tout simplement sortis de leur maison. On leur dit du jour au lendemain, en fait, le gouvernement a passé un accord avec RWE, qui est donc l'énergéticien un peu l'égal de Total en Allemagne. Et en fait, vous devez partir parce que nous, on a du business à faire. Et en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on pourrait toutes et tous se retrouver exactement dans la même situation que ces personnes-là. Tout simplement parce qu'en tant que citoyen, quand votre État et une entreprise se sont mis d'accord, vous ne pouvez presque plus rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, apparemment, c'est de prendre un peu les armes que sont le militantisme, que sont les réseaux sociaux, de vous allier pour faire entendre votre voix. Et malheureusement, dans beaucoup de cas encore aujourd'hui, ça reste un peu lettre morte, puisque Lützerath, les habitants, les 1500 habitants qui ont été expropriés, finalement, ils ont été balayés d'un revers de main par les forces de police, avec une mobilisation qui est quand même sans précédent depuis quelques années. Et on se retrouve avec des excuses de la part du gouvernement, du style, il faut faire face à la crise énergétique qui est liée à la guerre en Ukraine, alors que la concession, aujourd'hui, elle a été donnée quand même à RWE depuis 1983, après le deuxième choc pétrolier. Il y avait quand même pas mal de temps pour se rendre compte qu'en termes de politique énergétique, ils étaient totalement à côté de la plaque. Et surtout, ces gouvernements-là, je parle de l'Allemagne, de la France, etc., mais il y en a beaucoup, vont ensuite se pavaner dans les COP en disant, oui, nous sommes engagés, nous avons compris l'urgence à agir. Mais en fait, ça c'est un peu c'est se foutre de notre gueule, typiquement. C'est se dire, en fait, dès qu'il y a de l'argent à se faire, dès qu'il y a du bif à se faire, il n'y a pas de souci, on va renier sur nos engagements. On est OK avec le fait de faire exploser notre bilan carbone. On est OK avec le fait de renier sur les droits humains le plus basique, qui est d'avoir une maison, d'avoir un foyer avec sa famille dans lequel on est attaché. Et tout ça pour être OK avec une entreprise, quoi.
François Mandil, il y a cette mobilisation effectivement à Lützerath, à Davos face aux entreprises. Vous évoquiez à l'instant le groupe RWE, Stécie Algrin. Il y a eu un choc important aussi le 12 janvier dernier lorsque la revue American Science a révélé que dès les années 80, le grand groupe pétrolier américain ExxonMobil disposait de projections scientifiques sur le réchauffement climatique d'une justesse remarquable et que malgré cela, l'entreprise a pendant des années publiquement jeté le doute sur l'état des connaissances scientifiques en la matière. Comment vous avez observé cette révélation-là, François Mandil ?
Alors, pour des militants de longue date, ça n'a rien de très surprenant et ça ajoute à la colère, on va dire. Moi, ce que j'aime bien dans ces mobilisations, c'est que et donc notamment dans ce que ces révélations amènent, c'est qu'il y a un côté, vous savez, dans le conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur, des escrocs disent à l'empereur, on va vous offrir des vêtements que seuls les idiots ne peuvent pas voir, et donc personne dit qu'il ne voit pas de peur de paraître idiot. Et puis il y a une petite fille à la fin qui dit mais le roi est nu, et en fait elle est la seule à le dire, mais écoutez, c'est quoi cette évidence là, elle marche pas dans le truc. Et en fait les jeunes militantes, dont Greta Thunberg, qui viennent dans des mobilisations comme à Lutzerat, je les vois un peu comme ça. C'est-à-dire que plus personne ne marche dans la combine, en tout cas les jeunes générations ne marchent plus dans cette combine et arrêtent de se faire marcher dessus par des grandes entreprises qui, depuis des années, sont au courant, mais font comme si de rien n'était. Et arrête de subir ce qu'on essaye de nous faire croire. De la même façon, il y a quelques mois, on a reproché à des militants de mettre de la soupe sur des œuvres d'art qui étaient protégées par une vitre. Et ben à Lutzerat, on détruit des églises classées, mais là il n'y a pas de vitre pour les protéger, puis ça ne gêne personne. Et ben ces militants, ces mobilisations, en fait, elles sont en train de dire le roi est nu, et ce qu'on est en train de faire, le monde qu'on est en train de nous préparer, il est scandaleux et nous ne voulons plus marcher là-dedans.
Marine Lamoureux, une réaction à ces mobilisations ?
Alors je vais m'inscrire un tout petit peu en décalage cette fois-ci. Évidemment pas sur l'intérêt des mobilisations et le fait que, heureusement que, comme vous dites, il y a des militants qui mettent le doigt sur les sujets essentiels. Après, je crois pas que ce soit juste une question de d'arrangement entre une entreprise et l'État. Je crois que la demande d'énergie, elle continue à être extrêmement importante dans nos sociétés. Je rappelle que Saint-Avold en France, qui est la centrale à charbon, a redémarré. Ça prouve bien que tous les pays Enfin, tous les gouvernements se retrouvent quand même dans des situations d'impasse parce que post-Covid, la demande en énergie repart, parce que les prix du gaz sont élevés et on sait qu'en Allemagne, ils sont très tributaires du gaz russe. Donc là encore, attention, c'est pas seulement des gros méchants. Alors je défends pas RWE ni l'État allemand, mais je rappelle quand même que les Grünen, les écologistes allemands, ont signé l'accord concernant Lutzerat, alors en disant que c'était un accord avec l'énergéticien pour sortir du charbon 8 ans plus tôt. Mais vous voyez bien que la question qui se pose au fond, c'est plutôt à quelle consommation est-on prêt ? À quelle sobriété est-on prêt ? Je rappelle qu'après le Covid, on s'est reprécipité pour prendre l'avion. Le secteur de l'aviation est reparti de plus belle, que la demande d'électricité est repartie de plus belle. Donc le charbon repart de plus belle. Donc attention aussi à questionner nos modes de consommation en tant que citoyens.
Les oubliés de l'actu, c'est maintenant, Philippe, pour vraiment finir cette émission. On propose à chacun d'entre vous d'évoquer en une minute, pas plus, hein, un sujet lié à l'écologie qui est peut-être passé inaperçu et qui vous paraît intéressant. Marine Lamoureux, on commence avec vous.
Oui, vous êtes la nouvelle dans cette émission, alors on vous accueille. Quel oublié de l'actu?
Merci.
Sur le sujet écologique.
Bah, un petit peu de promotion pour mon journal, parce que on a vraiment pris un tournant écologique ces dernières semaines, avec des pages qui s'appellent plus économie mais éco et transition. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter toutes les questions économiques à travers ce prisme de la transition. Je crois que c'est une démarche essentielle que je voudrais mettre en avant. Et puis on a aussi un nouveau cahier hebdomadaire qui s'appelle Planète, urgence et solutions, qui paraît le mercredi. De la même manière, avec notre patte et notre savoir-faire la croix, on ne renie pas la complexité des sujets, mais on ouvre les portes pour pas, bien sûr, être dans la désespérance sur les sujets d'environnement.
En tout cas, c'est symboliquement fort, quoi. Plus de pages économie dans la croix.
Alors, on traite des sujets d'économie, mais on essaye, parce qu'on est convaincu que les enjeux de transition écologique sont absolument, enfin, encore une fois, nous incombent et sont les sujets absolument centraux, qu'on ne peut plus parler d'énergie, de transport, de production d'électricité, sans parler d'enjeux environnementaux.
Stécie Algrin, votre oublié de l'actu ce mois-ci.
Oui, On a pas mal parlé de l'industrie fossile pendant cette émission. On a également parlé de l'Amérique latine avec le Brésil. Eh bien, il y a une autre bonne nouvelle de ce côté-là, puisque le président colombien Gustavo Petro, qui a été élu donc en août dernier, a annoncé au Forum économique de Davos que la Colombie n'accepterait plus de projets d'expansion des énergies fossiles, le gaz, donc le pétrole. Donc ça nous montre que oui, le Forum économique de Davos, ça peut être un peu un balai de polichinelle, mais qu'il y a aussi des personnes qui se bougent et qui essaient de faire avancer les choses dans le bon sens.
Voilà, et qui nous donne un peu de lumière au milieu de la grisaille de ce mois de janvier quand même un peu ah oui. Où le François Mandil voit votre oublié de l'actu écologique de ce mois de janvier.
Rapidement, François.
D'appuyer ce qu'a dit souvent Marine Lamoureux dans l'émission, c'est que la question de la transition, elle est beaucoup liée à elle est compliquée. C'est pas juste le fait de méchant contre gentil, mais qu'il y a bien un grand changement profond de société à faire et que c'est pas simple. Vous avez peut-être vu passer une étude, alors qui se concentre sur les pays anglophones. Mais vous savez, on dit souvent que les jeunes sont un peu militants et puis se rangent avec le temps et en vieillissant, ils deviennent conservateurs, ce qui est grosso modo assez souvent vérifié. Mais il semblerait que la génération de ce qu'on appelle les millennials, vous savez, ceux qui sont nés dans les 20 dernières années du 20e siècle, eh bien ce soit en fait exactement le contraire et qu'il y ait une vraie radicalisation, une vraie changement assez profond de cette génération qui en vieillissant se radicalise et accepte de devoir transformer profondément la société. Alors on n'est pas encore en mesure de faire cette étude sur les plus jeunes, ceux qui sont nés ce qu'on appelle la génération Z, mais en tout cas ce qui semble avoir été une règle intangible depuis des années.
Merci,
que
François.
En vieillissant on ne peut plus changer, bah là c'est pas le vrai.
Bah voilà, c'était votre oublié de l'actu. Merci à tous les trois, Marine Lamoureux, François Mandil, Stécial Grain, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci Philippe Lansac.
Merci Melchior.
Et merci à Anne qui a préparé cette émission avec vous.
À qui on pense
vous,
bien ce matin.
Bien, très fort. Dans un instant, on va parler du label HVE, Haute Valeur Environnementale. À tout de suite sur RCF. On continue.